suite à un décret du Vatican qui est paru le 8 juillet dernier. Voici ce qu'on peut lire sur le site officiel des Journées mondiales de la jeunesse qui ont lieu à partir de demain à Rio de Janeiro, au Brésil. Voici ce qu'on peut y lire. Dans le cadre de l'année de la foi, le pape accorde le don des indulgences à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à Rio du 22 au 29 juillet prochain. C'est ce qu'annonce un décret du Saint-Siège publié le mardi 8 juillet 2013. François, le pape donc, désire ainsi que les jeunes, en communion avec les fins spirituelles de l'année de la foi lancée par le pape émérite Benoît XVI, puissent obtenir les fruits espérés de la sanctification des 28e JMJ dont le thème est « Allez de toutes les nations faites des disciples ». Le pape a décidé, je cite, « d'accorder ses indulgences à la suite d'une audience le 3 juin dernier avec le cardinal Montero de Castro, grand pénitencier ». Les jeunes et tous les fidèles qui s'y seront préparés pourront donc recevoir le don des indulgences sous deux formes, l'indulgence plénière et l'indulgence partielle. La première s'obtient une fois par jour aux conditions habituelles, à savoir la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière à l'intention du pape. Elle est aussi applicable par mode de suffrage aux âmes des fidèles défunts, ainsi qu'aux fidèles réellement repentis et contrits, et qui participent aux rites sacrés et pieux qui se dérouleront à Rio de Janeiro. La seconde, l'indulgence partielle, est accordée aux fidèles, où qu'ils soient durant la rencontre des JMJ, chaque fois que, au moins avec l'âme contrite, ils prieront Dieu, concluant ainsi la prière officielle des Journées mondiales de la jeunesse, et quand ils invoqueront la Vierge Marie, reine du Brésil, et les autres saints patrons, pour qu'ils les stimulent et les renforcent dans leur foi, et enfin les conduisent vers une vie sainte. Voilà, ça c'était la citation d'une page officielle du site internet des Journées mondiales de la jeunesse qui vont débuter dès demain. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces indulgences qui, sur décision du Vatican, seraient accordées à ceux qui suivent assidûment les Journées mondiales de la jeunesse et à ceux qui, dans l'impossibilité de s'y rendre, les suivraient quand même, notamment à l'aide des réseaux sociaux, comme Twitter. Donc si vous êtes abonné, si vous avez un compte Twitter, vous êtes abonné au compte du pape et que vous suivez assidûment l'âme contrite, bien sûr, le déroulement des Journées mondiales de la jeunesse, sachez que le pape vous accorde des indulgences. Et les indulgences, c'est quoi? C'est une remise de peine accordée aux âmes qui vont passer un certain temps au purgatoire. Ça réduit la durée passée au purgatoire pour ceux qui reçoivent donc ces indulgences. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire, et notamment pour l'enregistrement, puisque ça sera certainement sur Internet, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, et même par certains égards beaucoup d'admiration pour nos amis catholiques, nos connaissances catholiques. Mais nous allons parler aujourd'hui d'un texte qui est souvent invoqué par les catholiques pour défendre la doctrine du pape, l'existence d'un pape, un chef de l'Église unique sur Terre, mais aussi pour défendre la doctrine des prêtres capables, d'après les catholiques, de remettre les péchés. Et donc, si vous voulez, pour les catholiques, l'Église a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. C'est pour ça que les catholiques vont confesser leurs péchés à un prêtre, qui ensuite, le prêtre, va prononcer solennellement, officiellement, leur absolution, ou bien en tout cas ce qu'il doit faire pour être absous. Alors on va lire ce texte, il s'agit de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, on s'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu, et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vérité, ta vérité. Elle est suffisante pour nous instruire en matière de foi et de vie. Seigneur, veuille bénir maintenant ces moments de méditation sur ta parole et fais en sorte, par l'action de ton esprit, qu'elle porte du fruit dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors l'Église, qu'est-ce que ça évoque pour vous ce terme d'Église? Est-ce que ça évoque une chapelle en pierre comme celle qu'on trouve au cœur de la plupart des villages français? Quand vous pensez à Église, est-ce que vous avez à l'esprit la basilique de Fourvière peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez à l'esprit des clochers, des vitraux, un grand orgue? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot Église? Peut-être une vieille institution dont le siège social serait au Vatican? Peut-être que c'est ça l'Église pour vous. Peut-être que l'Église, ça évoque un rassemblement de vieilles personnes dans un lieu sombre, froid et ennuyeux. Peut-être que l'Église, ça évoque pour vous, comme pour beaucoup de nos contemporains, ça évoquerait une idéologie obscurantiste, bornée, manipulatrice, réactionnaire. Peut-être que l'Église, ça évoque pour vous un genre de service à la demande pour ceux qui croient en Dieu et qui ont besoin de son aide de temps à autre. Peut-être que c'est ça l'Église, finalement, on va à l'Église de temps à autre quand ça va mal pour solliciter l'aide de Dieu. Peut-être que l'Église, ça appartient au secteur tertiaire de la société et de l'économie. Bon, bref. Pour les contemporains de Jésus, ce terme d'Église est relativement nouveau. C'est un concept relativement nouveau, je dis bien relativement, parce que jusqu'alors, le peuple de Dieu était constitué des Juifs hein, dans l'Ancien Testament. On ne parlait pas tellement de l'Église avant la venue de Jésus, mais on parlait des Israélites, on parlait du peuple d'Israël, on parlait du peuple de Dieu ou des Juifs. Bien que, il est vrai, quand on regarde notamment la traduction grecque de l'Ancien Testament, on voit que ce terme Église, qui apparaît ici dans l'Évangile de Matthieu, en grec était parfois employé dans l'Ancien Testament, dans la traduction en grec, pour désigner le peuple d'Israël. Mais Jésus ici, dans ce texte, il parle d'un peuple qui lui appartienne, hein, il dit bien « mon Église ». Il récupère en fait ici un concept qui aurait été, bien que peu utilisé, en tout cas il aurait été naturellement associé à l'idée du peuple de Dieu, à l'idée du peuple d'Israël. Et ici, il récupère ce concept et il y ajoute ce pronom possessif « mon Église ». Et dans le texte qu'on vient de lire, hein, en fait, c'est la toute première fois dans le Nouveau Testament que ce mot « Église » apparaît. Et c'est ici aussi, peut-être que ce n'est pas un hasard, hein, dans la providence de Dieu, c'est ici aussi que se trouve la définition la plus fondamentale, la plus succincte, je dirais, et en même temps la plus fondamentale de ce que c'est que l'Église. Le reste du Nouveau Testament hein, va nous parler de la naissance, on va dire, officielle de l'Église, au jour de la Pentecôte, de l'Église chrétienne en tout cas, de sa croissance, de sa mission, les épîtres vont nous parler de l'édification de l'Église. Mais avant ça, avant d'en venir là, il faut bien que nous comprenions de quoi il s'agit quand on parle d'Église. Et qui mieux que Jésus peut nous parler de l'Église, son Église, dit-il. Alors on va voir ce matin, enfin cet après-midi, pardon, oui c'est les vacances, hein. On va voir cet après-midi, ça fait pourtant 3 ans qu'on fait le cul de l'après-midi, mais bon, on va voir cet après-midi que l'idée que nous faisons de l'Église est bien souvent déformée, et on a tendance à tomber dans deux travers. Soit on donne à l'Église une importance disproportionnée, en lui reconnaissant un pouvoir propre qu'elle n'a pas en réalité, soit à l'inverse, on sous-estime la nature et le rôle de l'Église, parfois au point de s'en désintéresser. Et honnêtement, en tant que protestants évangéliques, je pense qu'on a tendance à tomber dans la deuxième catégorie, celle de délaisser l'Église, de s'en désintéresser, de sous-estimer sa nature et son rôle. Mais si vous êtes catholique, si vous êtes d'une tradition catholique, cet après-midi, vous voyez peut-être de quoi je veux parler quand je parle de l'autre tendance qui consisterait à exagérer l'importance de l'Église, à lui donner un pouvoir disproportionné, un pouvoir propre qu'elle n'a pas en réalité, au point peut-être parfois de tomber dans une forme de superstition vis-à-vis de l'Église. Et au bout du compte, d'inventer peut-être des doctrines qui sont étrangères à l'Écriture. Mais Jésus nous montre dans ce texte, en tout cas, la juste place de l'Église, et on va voir qu'en réalité, l'Église, sans lui donner trop d'importance, est néanmoins centrale au plan de Dieu pour les hommes. Alors, ce qui se passe dans le texte, hein, vous avez vu, Jésus se renseigne pour savoir ce que les gens pensent de lui. Et ensuite, il demande à ses disciples ce que eux pensent. Donc il y a eu plusieurs réponses impossibles. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ah mais vous, dit Jésus, vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et là, il y en a un qui répond, c'est Pierre. Et il dit, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus ensuite félicite Pierre pour cette réponse. Une réponse unique par rapport aux autres, parce qu'elle n'est pas le fruit de ses propres raisonnements, mais elle est le fruit, dit-il, d'une révélation de la part de Dieu. Il lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Réponse unique, complètement différente des autres réponses possibles. Et ensuite, Jésus fait donc cette déclaration bien connue. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Jeu de mots qui existe dans le grec aussi. Et sur ce verset, les catholiques fondent en grande partie leur doctrine du pape en disant Pierre est le premier pape et dans la succession de Pierre viennent ensuite tous les papes de l'histoire, tous les papes légitimes en tout cas de l'histoire. Alors ce verset a fait couler beaucoup d'encre, inutile de vous le dire, mais en réalité, franchement, il n'y a rien ici de très mystérieux. Jésus répond à la déclaration de Pierre en faisant de lui, de Pierre, non pas à cause de sa personne, mais à cause de sa déclaration, l'exemple de ce qui doit constituer le fondement de l'Église de Jésus. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant le texte, mais depuis le verset 13, il est question de ce que les gens disent. C'est la question, que dire des gens, qui suis-je? Et puis on a plusieurs réponses. Ensuite, mais vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et ensuite, au verset 17, encore, Jésus reprend la parole et pointe non pas Pierre en tant que personne, mais bien ce qu'il vient de dire. Tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, quand on arrive au verset 18, cette pierre, naturellement, ça désigne quoi? Naturellement, notre attention a déjà été attirée vers la déclaration, pas vers la personne. Sur cette pierre, cette déclaration que tu viens de faire, Pierre, sur cette pierre, cette confession de foi, cette profession de foi, c'est là-dessus que je bâtirai mon Église. Bien sûr, Jésus fait un jeu de mots ici avec le prénom de Pierre. Mais cette pierre ne désigne pas la personne de Pierre, mais désigne bien ce qu'il vient de dire, cette profession de foi. L'Église est bâtie sur cette confession de foi. Lorsque vous construisez une maison, ça vous est peut-être jamais arrivé, c'est pas très courant, mais si vous décidiez de construire une maison, vous choisiriez le matériau de base pour la construction. Est-ce que je vais construire ma maison en bois? Est-ce que je vais la construire en béton? Est-ce que je vais la construire en argile, en brique? Et Jésus est en train de dire ici, le matériau de base pour la construction de l'Église, de mon Église, c'est cette déclaration que tu viens de faire, Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quelle est cette pierre? Quelle est cette déclaration? Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ça peut sembler un peu simpliste, comme déclaration, comme profession de foi. C'est vrai que si vous alliez sur le site internet de notre Église, vous cliquez sur confession de foi de l'Église réformée évangélique, vous avez juste une phrase, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous dites, bon, ça ne va pas chercher bien loin, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais en réalité, cette affirmation n'est pas anodine. Surtout pour les juifs que sont les disciples de Jésus. Pour le juif qu'est Pierre à cette époque-là, confesser que Jésus est le Christ, ça veut dire le Messie, et le Fils du Dieu vivant, c'est reconnaître que Jésus a été envoyé par Dieu en tant que Messie, en tant que Christ, que Jésus est médiateur entre nous et Dieu conformément aux prophéties de l'Ancien Testament, que Jésus a été établi roi ou qu'il est destiné en tout cas à être établi roi par Dieu, c'est ça le sens du mot Messie et de toute l'attente messianique de l'Ancien Testament. Et dire qu'il est le Fils du Dieu vivant, c'est aussi d'une certaine façon reconnaître qu'il est Dieu lui-même. Donc c'est quand même une profession de foi bouleversante, quoi. C'est explosif pour un juif d'affirmer ça. Et c'est pour cette raison aussi que Jésus dit à Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ça. C'est pas ton propre raisonnement, parce que ce serait trop fou pour que toi, Pierre, même toi, Pierre, hein, toi avec ton caractère, même toi, tu t'aurais jamais osé dire un truc pareil. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Et en fait, le sens même de la venue de Jésus, finalement, est résumé par cette simple déclaration. Jésus est le prophète que Dieu nous a envoyé pour se révéler à nous. Il est le prêtre qui a offert le sacrifice ultime pour nous délivrer de nos péchés. Il est le roi, enfin, le roi suprême, vainqueur de l'ennemi ultime par sa résurrection, appelé à régner dans notre vie et sur toute la création. Donc, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es prophète, prêtre et roi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Voilà la confession de foi dont est faite l'Église, dont elle est bâtie. Voilà le matériau de construction, de base de l'Église de Jésus. Alors la question qui nous est posée indirectement, c'est évidemment la suivante. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour vous? Pour toi? Beaucoup de gens bien intentionnés à l'égard de Jésus ont des opinions diverses. Et positif sur lui, c'est un grand prophète, un grand enseignant, c'était un révolutionnaire, c'était un végétarien, enfin j'en sais rien moi. On peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut sur Jésus, hein. En fait c'est quelqu'un de sympathique globalement Jésus. Mais c'est seulement sur cette déclaration de foi solennelle que l'Église de Jésus est réellement construite. Pierre lui-même l'a bien compris lorsqu'il a écrit plus tard, dans sa première épître, il écrit ceci, 1 Pierre 2, verset 5, il dit « Vous-même, et il s'adresse aux chrétiens, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Mais Jésus, dans ce texte, nous parle aussi de la mission ou du rôle de l'Église. Donc, il a parlé de ce qui allait caractériser l'Église en termes de matériaux de construction de base, sur quoi il allait la bâtir, bien sûr, cette déclaration de foi, mais il nous parle aussi de la mission de l'Église. Et voici ce que Jésus ajoute dans la deuxième partie du verset 18. Il ajoute, une fois qu'il a dit de quoi serait faite l'Église, il ajoute « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Contre l'Église, donc. « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors, on s'imagine souvent que l'Église, ici-bas, est sur la défensive face aux attaques de l'ennemi, face aux attaques de l'enfer, face aux attaques du diable. Que l'Église est là, on est barricadé dans notre bunker et on sort notre Bible pour contrer les attaques du malin. C'est comme ça qu'on imagine souvent l'Église. En réalité, dans ce texte, d'après Jésus, c'est exactement le contraire. C'est l'Église qui est sur l'offensive et les portes du séjour des morts qui sont sur la défensive, qui essayent de résister aux attaques de l'Église. L'Église est une Église conquérante dans ce texte. Et Jésus dit, les portes du séjour des morts ne vont pas résister à la conquête, à l'offensive de l'Église. L'Église enfonce les portes du séjour des morts. Alors il y a un épisode d'Astérix et Obélix où Astérix est emprisonné dans une prison romaine et où Obélix va le chercher. Il y a peut-être même plusieurs épisodes où c'est comme ça. Et Obélix, qu'est-ce qu'il fait? Si mes souvenirs sont bons, Obélix se laisse emprisonner pour rejoindre Astérix dans sa cellule. Et ensuite, une fois là, il lui brise les chaînes, et d'un petit coup de poing, un tout petit coup de poing, une pichenette, il défonce la porte de la prison, et les deux s'enfuient ensemble. Quelque part, toute proportion gardée, et sans être irrévérencieux, quelque part, c'est un peu ce que Jésus a fait pour nous. Il a été enseveli, il a pris notre place, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, d'après le symbole des apôtres, d'après une des plus anciennes confessions de foi de l'Église. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et du coup, tous ceux qui se confient en Jésus ressuscitent avec lui, sont attachés avec lui. Jésus dit, ils forment une même plante avec lui, ils sont unis. Quand il dit, ils forment une même plante, c'est pratiquement une espèce de symbiose. On est unis à Jésus par la foi, de telle sorte que tout ce qu'il a accompli en mourant et en ressuscitant, eh ben c'est pour nous. On entre au bénéfice de ces choses-là. Un peu comme Astérix qui entre au bénéfice de ce que Obélix fait pour lui, et qui extrait Astérix de sa prison. Tous ceux qui se confient en Jésus, donc ressuscitent avec lui, sont nés de nouveau, délivrés, une fois pour toutes, de la puissance du péché et de la mort. Et quelque part, la mission de l'Église, donc, qui consiste à enfoncer les portes du séjour des morts, c'est la parfaite continuité de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu nous chercher dans le séjour des morts. Et on était avec lui lorsqu'il en est sorti. Par la foi, et bien sûr, on anticipe, on attend le jour de notre future résurrection et notre glorification. Mais nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes appelés à enfoncer les portes du séjour des morts et à en sortir avec des personnes, des hommes, des femmes qui placent à leur tour leur confiance en Jésus pour leur salut, qui naissent à une vie nouvelle, qui sont régénérés par conséquent, qui deviennent des nouvelles créatures. Comment est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, pour enfoncer les portes du séjour des morts? Eh bien, nous le faisons quand on proclame le message de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À chaque fois qu'on proclame publiquement le message de l'Évangile, l'invitation que Dieu offre à tout homme, à tout être humain, de placer sa confiance en lui pour être délivré de ses péchés, à chaque fois qu'on fait ça, on est en train de donner des grands coups sur les portes du séjour des morts. Et Jésus dit qu'elles ne vont pas résister. Nous en ressortirons avec des gens. L'évangélisation, c'est en fait un peu une opération commando en terrain ennemi. Hein. L'évangélisation, c'est un peu comme être parachuté en pleine jungle colombienne et en ressortir avec Ingrid Betancourt, vous vous rappelez? C'est un peu ça, hein? Où est-ce que j'en suis, du coup? Oui, voilà, la promesse de Jésus. Les portes de la prison ne résisteront pas à la mission de l'Église. Les portes du séjour des morts ne résisteront pas à la mission de l'Église. C'est énorme comme promesse que fait Jésus ici. Hein. Jésus affirme que l'Église est conquérante, c'est le triomphe de la vie sur la mort. L'Église, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus à la croix et au tombeau vide. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et dans l'esprit de beaucoup de gens, ils imaginent pousser les portes d'une église et en fait entrer dans le séjour des morts. Bien souvent, c'est à ça. C'est de ça que ça a l'air. Et c'est ça qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est pas surprenant si le témoignage de ces églises semble inefficace. Hein. Bien souvent, elles se sont éloignées de cette déclaration de foi de Pierre. Et bien souvent, elles ne sont pas en train d'enfoncer les portes du séjour des morts par la proclamation de l'Évangile. C'est pas étonnant si ces églises ressemblent au séjour des morts. Et c'est dramatique. Jésus dit que l'Église doit être l'inverse du séjour des morts. Autour de la personne de Jésus, l'Église doit être, au contraire, le règne de la vie et de la vie en abondance, comme il l'a dit. Mais Jésus ajoute encore une chose dans ce passage, hein. Et c'est peut-être, ça fait partie des versets qui ont fait couler beaucoup d'encre à partir du verset 19. Là, il est dit que Jésus confie les clés du royaume des cieux à Pierre. Et là, il est en train, manifestement, de donner à Pierre un mandat particulier concernant l'établissement de l'Église du Nouveau Testament. Et c'est vrai que quand on lit le livre des Actes, on voit que Pierre a un rôle unique parmi les apôtres, qui consiste, de façon symbolique, à ouvrir les portes à chaque nouvelle étape de l'avancée de l'Évangile. D'abord à Jérusalem, conformément à ce qui est dit au début d'Actes, hein, Actes chapitre 1, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et à chaque fois qu'une nouvelle étape est franchie, Pierre est là, pendant les premiers chapitres d'Actes. Il est là et a assumé son rôle, quelque part, ce mandat particulier que Jésus lui a confié. Et ensuite, Jésus affirme qu'il y a un lien direct, semble-t-il, entre l'usage que Pierre fera de ses clés sur terre et ce qui se passe au ciel. Hein, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et ensuite, il ajoute « Ce que tu liras sur terre. » Sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors certains utilisent ce verset pour donner à l'Église, justement, et à ses représentants, qui sont les prêtres, et par excellence le pape, le pouvoir de remettre les péchés aux gens, et de les délier, comme il est dit, sur terre, pour qu'ils soient déliés dans les cieux. Mais il faut comprendre que ce que Jésus déclare à Pierre ici s'applique certes à Pierre dans un premier temps, mais il s'applique aussi à l'Église dans son ensemble, c'est-à-dire à tous ses membres, étant la continuité de ce que Pierre et les apôtres ont commencé. Et pour comprendre cela, il ne faut pas interpréter ce passage indépendamment de l'autre passage où Jésus emploie la même expression, qui se trouve dans Matthieu 18, verset 18, et comme par hasard, c'est la deuxième fois que le mot « Église » apparaît dans le Nouveau Testament. Mais cette fois, C'est au pluriel. Ce que vous délirez, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18, 18. Donc ce n'est pas un mandat unique, réservé à Pierre et à ses successeurs qui seraient les différents papes. C'est un mandat qui, en tout cas d'après Matthieu 18, 18, appartient à l'Église, semble-t-il, entière, ou au moins à une certaine... Enfin, qui concernerait une certaine fonction dans l'Église, et je vais y revenir. Jésus vient juste de parler des portes du séjour des morts qui ne prévaudront pas contre l'Église. Maintenant, il parle de lier et de délier. Jésus est en train de dire ici que les effets, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, que les effets de la mission de l'Église sont célestes. Les effets de la mission de l'Église ici-bas sont célestes. Jusqu'ici, on est d'accord avec les catholiques. L'Église, assumant sa mission ici-bas, produit des effets dans le ciel. C'est, à mon avis, ce que Jésus est en train de dire ici. L'Église, proclamant la parole de Dieu, enfonce donc les portes du séjour des morts, et les hommes et des femmes et des enfants sont délivrés pour l'éternité, déliés du coup dans les cieux, tandis que d'autres, à l'écoute de cette même parole, ce même évangile, s'endurcissent ici-bas et par conséquent sont liés dans les cieux à cause de leur incrédulité. Est-ce que quelqu'un qui fait de la pêche, je dis quelqu'un qui fait de la pêche, pour pas dire un pêcheur, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, est-ce que quelqu'un qui fait de la pêche a le pouvoir d'attraper des poissons? Une question piège, hein? Ben dans un sens, oui, hein, parce qu'il est tout équipé et puis il sort pour ça. Il est fait pour ça. Le pêcheur, c'est quelqu'un qui pêche des poissons, non? Donc quelque part, on peut dire qu'il a le pouvoir de cueillir, d'attraper des poissons. Et en même temps, il n'a pas vraiment le pouvoir d'attraper des poissons, parce qu'il peut être très très bien équipé et pas y arriver. C'est exactement l'expérience des disciples, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 5, qui ont passé la nuit à jeter le filet dans la mer, et qui n'ont rien pris. Puis Jésus arrive. Il leur dit, va jeter le filet encore une fois. Et là, le filet est plein à craquer. Ils ont ramassé plein de poissons. Est-ce qu'ils avaient le pouvoir de le faire? Non, ils étaient équipés pour le faire. Mais dans un certain sens, on peut aussi dire qu'ils avaient le pouvoir de le faire, puisqu'ils étaient équipés pour le faire. Ils avaient aussi le savoir-faire pour le faire. Ça fait pas mal de redondance, hein, vous aimez ça. Qu'est-ce que l'Église a? Elle a l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On est équipé donc pour délier des hommes pour l'éternité. Quand l'Église proclame l'Évangile publiquement, lorsqu'elle annonce publiquement l'invitation que Dieu adresse aux hommes, par l'action du Saint-Esprit, des hommes et des femmes, des enfants vont répondre favorablement à cette invitation et seront déliés pour l'éternité. L'effet de la mission de l'Église ici-bas, les effets sont célestes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cette raison qu'on peut dire ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Non pas que tu en décides toi-même, mais quand tu use de l'équipement que Dieu t'a donné, quand tu uses de cette arme offensive que tu as entre les mains, qui est la parole de Dieu, tu es en train de lier ou de délier des âmes. Et cela pour l'éternité. Ça nous fait mesurer l'importance de notre vocation, non? En tant que chrétien, qui consiste à être témoin de Jésus-Christ. Ça nous fait mesurer l'importance de la vocation de l'Église à qui l'Évangile a été confié. L'Église qui est dépositaire de la révélation de Dieu, dépositaire de la vérité. L'Église, pour Jésus, c'est l'irruption du royaume des cieux sur terre. Ou encore, on peut dire que l'Église, c'est un avant-poste du royaume de Dieu. Lors du débarquement en Normandie, hein, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés n'ont pas occupé la France tout entière d'un coup. Ils ont cherché à gagner du terrain. Et une fois qu'ils ont gagné du terrain, ils ont sécurisé la zone. Et à un moment donné, dans la France occupée, hein, pendant cette période-là, après le débarquement, il y avait dans un même pays des zones ennemies et des zones alliées, des zones sécurisées, des avant-postes des alliés en terrain ennemi. Et les lois dans ces zones-là étaient différentes des lois en dehors de ces zones, pourtant dans le même pays. La qualité de vie dans ces zones-là était différente de celle dans les autres, dans le reste du pays. Et l'Église, de façon un peu similaire, est aussi, quelque part, un avant-poste du royaume de Dieu. Une ambassade du royaume des cieux sur terre. La vie dans l'Église est censée être différente par rapport à la vie à l'extérieur. Paul dit que notre cité est dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On est sur terre et pourtant notre cité est déjà dans les cieux. Il dit aussi, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, du séjour des morts, n'est-ce pas, et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc notre citoyenneté en tant que chrétien, citoyen du ciel et sujet du royaume de Jésus, eh bien notre citoyenneté céleste s'exprime et se vit dans le cadre de l'Église sur terre. La parole de Dieu que nous sommes appelés à proclamer est donc une épée, et dans le fameux passage sur les armes du chrétien, l'armure chrétienne, eh bien c'est la seule arme offensive en réalité, les autres sont des armes défensives. La parole de Dieu est une épée qui nous est confiée pour que nous accomplissions notre mission et ainsi que nous entraînions des conséquences dans l'éternité. Juste un mot sur le verset 20. Où Jésus recommande sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. La raison, c'est que, en tant que Christ, en tant que Messie, Jésus, à ce moment-là de l'histoire, n'est pas encore entré dans son règne. Il doit encore souffrir, il doit encore être humilié, il doit encore mourir. Il n'est pas encore ressuscité, il n'a pas encore vaincu les puissances, Et donc, il n'est pas encore temps d'annoncer l'établissement du règne du Messie. Ce serait une erreur de dire, Jésus, voyez, voici le Messie, regardez-le. Puis on a un gars qui se balade en sandales dans les rues de Jérusalem et qui va être crucifié entre deux bandits. C'est pas, non, parce que le Messie, ça désigne vraiment dans l'Ancien Testament quelqu'un qui va régner de façon suprême. Mais le moment viendra, rappelez-vous de la conclusion de l'évangile de Matthieu. Où après sa résurrection et au moment de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples, voici, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée sur terre et dans le ciel. Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là, c'est le moment d'annoncer que Jésus est entré dans son règne glorieux. Il est le Messie. Alors, pour conclure, l'Église, l'idée que vous vous faites ou que vous vous faisiez de l'Église, s'approchait-elle ou s'éloignait-elle de l'idée que Jésus se fait de son Église ? Vous pensiez peut-être, en venant aujourd'hui, que l'Église, c'était une vieille chapelle avec un clocher, des vitraux. Vous pensiez peut-être que l'Église, c'était une salle dans le sous-sol d'un édifice catholique, repeint, je ne sais pas quelle idée vous aviez de l'Église, mais l'Église, selon Jésus, c'est un édifice formé de pierres vivantes qui confessent que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous pensiez peut-être que l'Église avait pour mission d'aider les gens qui croient en Dieu lorsqu'ils en ressentent le besoin, comme un service, mais en fait, l'Église, selon Jésus, est appelée à enfoncer les portes du séjour des morts et à en ressortir avec des hommes et des femmes et des enfants qui placent leur confiance en Jésus et qui naissent à une vie nouvelle. Vous pensiez enfin que l'Église, peut-être, c'était une institution humaine, hégémonique, dont le siège social est quelque part au Vatican. Mais l'Église, selon Jésus, c'est un avant-poste de son propre royaume. Le siège de l'Église, il est au ciel. Il est là où Jésus règne, à la droite de Dieu le Père. C'est le cadre, l'Église, le cadre dans lequel Jésus lui-même agit. Aujourd'hui encore, ici-bas, sous l'effet de sa parole proclamée, et il agit tantôt pour endurcir les cœurs et les lier pour le ciel, et tantôt pour faire fléchir les cœurs et délier les âmes pour l'éternité. Alors, quelle idée faites-vous ? Vous faites-vous de l'Église au quotidien ? Quelle idée vous faites-vous de notre Église, notre petite assemblée, incongrue, postée en plein cœur de Gerland? Sachez que selon Jésus, notre petite assemblée est un avant-poste de son royaume. C'est pas rien. C'est lui qui compte nous édifier en tant qu'Église et nous faire croître à sa gloire. Il en a fait la promesse. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu de nous rappeler que l'Église, c'est pas rien. C'est une réalité dont les enjeux de l'existence sont très grands, puisque tu as confié à l'Église la vérité. Tu as confié à l'Église ta révélation, ce trésor qu'est l'Évangile et que nous portons comme dans des vases de terre, mais que nous sommes appelés à proclamer autour de nous, sachant que les conséquences de cette proclamation sont éternelles. Alors Seigneur, aide-nous à mesurer avec plus de crainte peut-être, plus de sérieux, quelle est notre vocation en tant qu'Église, en tant que membre d'Église. Aide-nous à être reconnaissants aussi pour tes promesses en ce qui concerne l'efficacité de la proclamation de l'Évangile. Et Seigneur, s'il te plaît, nous pensons tous à des gens autour de nous, dans notre entourage, qui sont encore derrière les portes du séjour des morts. Seigneur, délivre-les s'il te plaît. Abat les obstacles qui les empêchent de venir à toi et d'entrer dans ton royaume. Amen.